Eric Meyer, bonjour.
Bonjour à vous.
Que symbolisent les Jeux Olympiques pour les Pékinois ?
Les Jeux Olympiques symbolisent avant tout l'entrée au monde et l'accueil en tant que maître de maison du monde entier, des cinq continents. Je reviens toujours à une phrase de Lu Xun, le plus grand écrivain chinois du XXe siècle, qui disait « La Chine passe la moitié de son temps à faire des complexes d'infériorité et l'autre moitié à faire des complexes de supériorité. » Bien là, on pourrait dire qu'on est quand même dans le complexe de supériorité, effectivement, ou en tout cas la joie absolue de rencontrer le monde entier. Mais peut-être qu'au-delà du complexe de supériorité, ce serait le moment d'exorciser ce très vieux démon et de se retrouver comme l'égal du monde entier cette fois-ci, et recevoir chez soi fastueusement, comme la Chine a toujours su le faire, d'égal à égal le reste du monde.
Alors, à un peu plus de 6 mois des Jeux Olympiques, est-ce qu'on pourrait faire un état des lieux de la ville aujourd'hui?
Bien sûr, si vous voulez, il y a deux manières de voir les choses. On peut le voir tout en noir ou tout en rose. Alors, je commence par le tout en rose, par exemple. Environ 65% de la surface de Pékin traditionnelle à l'intérieur du troisième périphérique a été abattue, rasée. C'était effectivement une surface très, très endommagée, jamais entretenue. Les gens habitaient beaucoup trop serrés dans cet habitat traditionnel sans étage où on subdivisait, on lotissait, ça faisait un peu clapier à lapin, c'était même gourbi carrément, mais ça avait été fastueux. Et donc tout a été cassé et à la place on a mis du béton. Mais on a fait un effort immense, surhumain, pour rendre en 5 ans, faire passer une ville tiers-mondiste à un niveau capitale mondiale. Et sous certains aspects, c'est réussi. 16 milliards de dollars investis, donc une douzaine de milliards d'euros en 5 ans, dans des canalisations géantes pour les égouts, dans des canalisations pour le gaz de ville qui a remplacé des milliers de chaudières à charbon. Il n'y a plus de chaudières à charbon dans Pékin, à l'intérieur du troisième périphérique. C'est incroyable. Tout est chauffé au gaz qui vient de Xi'an à 1500 km d'ici. Donc les égouts, j'ai dit, vous avez aussi des normes les plus sévères de toute la Terre pour les automobiles. Et donc un effort incroyable a été fait pour rendre cette ville propre sous l'angle de l'air. Alors, c'est pas réussi. On en est encore loin. De dehors, là où nous parlons, on voit un air qui est gris, qui est argenté. C'est du smog. C'est du smog. Ce sont des concentrations de COV, ça s'appelle, c'est-à-dire d'agents polluants qui se dissolvent dans l'air, notamment sous l'effet photochimique de la lumière. Eh ben, ils ont constaté, ils ont d'abord recruté un ancien ministre de l'environnement de Hong Kong, qui a fait un rapport complet sur l'état de cette pollution dans Pékin. Ils ont constaté que une grande partie de la pollution venait des stations d'essence. On a 1300 stations d'essence dans Pékin, dont 3% seulement sont équipées de clapets qui empêchent l'essence volatilisée de sortir des tuyaux. Donc elles sortent dans l'atmosphère. Eh bien, ils ont décidé, j'ai appris ça la semaine dernière, et c'est une décision ultra récente. Le mois dernier, elle n'existait pas. Ils ont décidé d'équiper toutes ces stations d'essence en 5 mois de clapets de récupération de l'essence et de systèmes de reliquéfaction des vapeurs d'essence. 50% de ces stations étaient privées et les patrons disaient « Désolé, j'ai pas les sous, je ne le ferai pas ». Et d'une manière ou d'une autre, soit c'est l'État qui va payer, soit les stations sont saisies. Je ne sais pas quel est le truc économique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un effort immense a été fait. Sous l'angle négatif, j'oubliais de parler des parcs aussi. les parcs de verdure, c'est tout à fait étonnant. Partout, 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 vous avez une obsession sur les petites fleurs, les petits buissons, les petits parcs avec des jardiniers partout au bord de la route, avec des rochers à l'ancienne et bientôt pour faire comme des jardins japonais, mais qui viennent de Chine en fait, qui viennent d'ici. Donc ce sera fastueux le jour des Jeux Olympiques, c'est sûr. La ville est extrêmement verdie et elle a peut-être pris 20% de surface de verdure en 5 ans. Alors l'aspect négatif, les gens sont stressés, on ne leur a pas demandé leur avis, c'est eux qui payent, ils en ont pour 20 ans. On chasse les Pékinois qui sont censés habiter sur le site olympique au rythme de 13 000 par mois, je crois. En tout cas, le chiffre qui est fourni par une agence américaine des droits de l'homme est de 1,5 million de gens dégagés, évacués, chassés de Pékin afin de faire place aux Jeux. Là, au niveau des droits de l'homme, ça se passe très difficilement. Au niveau de la, comment ça s'appelle, de l'information et de la liberté d'information et d'opinion, les promesses qui ont été faites à la presse étrangère n'ont pas été tenues. Et loin de là, on en est même on nous annonce qu'on fait des fiches spéciales sur chacun d'entre nous, auxquelles toute personne que nous voudrions interviewer pendant les Jeux recevront notre fiche pour savoir à quel coco ils ont affaire, quitte à refuser de nous parler ensuite. Enfin, il y a une espèce de chasse aux sorcières latente qui montre chez ces gouvernements une angoisse réelle, une peur. Et on peut s'interroger sur quelle est la raison et quelle est la qualité de cette peur, quoi. Pourquoi avoir tellement peur 6 mois avant les Jeux, après l'effort qu'ils ont fourni?
Alors, un monde, un rêve, où l'impossible est possible, sont les slogans des Jeux Olympiques qu'on peut voir dans la ville. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les Pékinois, après tout ce qu'on vient d'évoquer?
C'est un slogan idéologique. Je pense pas que ça. Si, on peut dire que ça signifie pour les Chinois le rêve d'accueillir le monde entier chez eux. Mais en gros, c'est une vieille histoire que la Russie et l'URSS connaissaient aussi sur ces derniers jours. Quand le communisme a absolument disparu, quand plus personne n'y croit et que même le gouvernement ne s'y réfère que les jours très officiels ou le jour où on ouvre la session de l'Assemblée nationale ou du congrès du parti. À part ça, personne ne croit au communisme ni n'en parle. C'est un monde disparu, révolu, mais qui existe toujours très officiellement en haut, quoi. Donc un monde, un rêve, c'est un peu la rencontre entre les deux, où le gouvernement dit, moi j'ai le rêve de, en tant que communiste, j'ai pas été mis à la porte et au contraire je suis richissime et je suis considéré. C'est mon rêve que j'ai imposé au monde. Et pour le petit peuple, c'est le rêve d'accueillir comment on dit, les amis étrangers. C'est une forme de naïveté joyeuse de l'accueil et de l'hospitalité dans ce pays d'égal à égal, quoi.
Que restera-t-il du vieux Pékin en août 2008?
Disons les 35% qui n'ont pas été abattus. Et ceci était inabattable, car il s'agissait de la cité interdite, du temple du ciel, et de tous les parcs de Pékin. Donc, il reste pas grand-chose. Là où nous sommes, c'est une résidence diplomatique. Elle a été refaite à neuf, mais les bâtiments n'ont pas été abattus. Mais en face et partout, c'est abattu. Et même à 200 mètres de chez nous, il y a un terrain vague de 4 terrains de football au moins, ou 6. Et on voit une belle promesse non tenue là par la mairie de Pékin qui laisse aussi se poser la question sur la capacité de l'État à contrôler sa base, car ils avaient promis par voie de presse que jusqu'au 31 décembre de 2006, tout grand chantier de béton serait terminé et qu'au 31 décembre 2007, tout aménagement intérieur serait terminé, de telle sorte que à partir du 1er janvier 2008, tout nouveau chantier serait interdit et qu'il ne resterait plus que des bricoles à arranger pour être bien prêt pour les Jeux Olympiques. Eh bien, ce terrain vague, ils sont en train de creuser jour et nuit et de souder et de creuser pour mettre des fondations qui vont apparaître en janvier ou février. Donc il y a quelqu'un qui manifestement a obtenu, moyennant un énorme bakchiche, un droit qui était illégal, qui n'aurait pas dû être obtenu.
Est-ce qu'on pourra respirer dans la chaleur moite de Pékin en août 2008 ?
Tout ce que je peux dire, c'est que les équipes olympiques ont très peur. Je sais que l'équipe britannique va s'entraîner les dernières semaines à Macao. Les Australiens ont loué une école qui est libre pendant l'été, par définition, pour y mettre 100 médecins ou accompagnants afin de s'occuper de leurs gens. La plupart des équipes vont essayer d'arriver le plus tard possible. Et le pompon, c'est l'équipe américaine qui s'est créé un nouveau centre d'entraînement en Corée du Sud avec un pont aérien permanent pour acheminer leurs athlètes quelques heures avant les épreuves. Ils porteront des masques qu'ils recommandent fortement de porter en tout temps, sauf pendant l'épreuve. Donc, ils ont extrêmement peur. Cela dit, comme je l'ai dit, toute cette pollution sur les stations d'essence n'aura plus lieu. Il est très probable que toutes les usines à 50 km à la ronde, ou même 100 km à la ronde, seront fermées 2 semaines avant les Jeux. Et les aciéries de Pékin seront transplantées définitivement à 180 km de Pékin, dans le Hebei. Les aciéries, c'est énorme, hein, c'est 7 millions de tonnes d'acier par an. Et ça se passe à 7 km du centre-ville, à Mentogo. C'est coincé contre des montagnes, ce qui fait que les volutes de fumée soufrée sortant des hauts fourneaux ne peuvent plus faire qu'une chose, c'est retourner sur Pékin. Les montagnes les empêchent d'aller plus loin. C'est Mao Tse-tung, dans sa grande sagesse idéologique, qui à l'époque avait décidé de mettre ces hauts fourneaux contre le centre où en gros allaient en retraite les aristocrates et les moines bouddhistes. Donc il s'agissait de punir les aristocrates et les moines bouddhistes en leur mettant les aciéries au milieu de leur paradis sacré. Mais en fait, c'était le peuple tout entier qu'on punissait vu qu'on mettait les aciéries dans le fer à cheval de montagne au centre duquel se trouve Pékin. Ce qu'on peut dire quand même comme élément tout à fait positif, c'est que la Chine a réinventé ces fameux canons à chlorure d'argent qui balancent des paillettes de chlorure d'argent à quelques milliers de mètres de hauteur au cœur des nuages, qu'ils inséminent ainsi, et les nuages se mettent ensuite à pleurer. On peut le faire de nuit et on peut garantir que pour, par exemple, 36 heures, il fera très 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 beau. Et on s'en est rendu compte le jour du 17e congrès. Pendant tout le 17e congrès, il a fait extrêmement beau. Juste avant, il faisait un temps épouvantable. Et à peine à la fin, il faisait un temps épouvantable aussi. Donc, on peut espérer avoir un temps qui soit artificiellement propre avec toutes ces techniques provisoires.
En tout cas, ce sera les premiers jeux aussi technologiques. Alors, Éric Meyer, vous avez été pendant presque 20 ans la voix chinoise de France Inter. Vous n'êtes plus aujourd'hui. Vous vous consacrez entièrement au vent de la Chine. Mais qu'est-ce que le vent de la Chine ?
Eh bien, le vent de la Chine est une petite lettre hebdomadaire de 4 feuillets et 15 articles. Et nous l'avons, nous l'avons mise au point selon un certain nombre de paramètres très originaux qui correspondent aux besoins de cette communauté française du bout du monde. Autrement dit, ici, on travaille dur. On n'a pas beaucoup de temps, donc c'est très court. C'est extrêmement court. C'est le texte le plus concentré que je connaisse. C'est moi qui l'écris. Les mots sont parfois abrégés, mais chaque mot porte un sens et chaque phrase porte un sens. Et il s'agit de faire tenir dans la boîte un message qui devrait être beaucoup plus long. Et donc, on n'arrête pas de voir des clins d'œil dedans ou des sens cachés. Et je les ai cachés, mais pas pour les occulter, mais pour gagner de la place. D'autre part, il y a un petit sens de l'humour et une manière des clins d'œil, et ça essaye d'être écrit d'une manière paradoxalement très simple. Les réalités chinoises sont très complexes, mais je ne veux pas que, squatter les secrets de la Chine, les garder pour moi. J'ai remarqué que ça peut être un petit défaut chez d'autres analystes de d'écrire dans un d'une manière très compliquée parce que ils pensent que c'est la meilleure manière de présenter les résultats de leur enquête, mais en réalité ça aboutit à la tour d'ivoire et où les gens ne peuvent pas comprendre ou ne peuvent pas apprécier. Tandis que moi j'exige que même ma grand-mère, si elle était en vie, puisse lire ce vent de la Chine. Il y a aussi un aspect un petit peu comme si on allait voir le masseur. C'est un monde dur ici. On est des Français du bout du monde et autour de nous, on ne vit que dans des caractères chinois et dans une langue qui n'a rien à voir avec la nôtre. Elle est mystérieuse, elle est parfois décourageante. Et les rapports des Chinois avec nous sont de même, à l'identique. Eh bien, je voudrais un petit peu masser nos lecteurs d'une certaine manière pour que, en lisant, c'est comme s'ils en trouvaient une fenêtre et un brouillard se dissipe et on comprend un peu mieux et on se réconcilie au passage. Donc il y a de tout ça. Et un autre paramètre est aussi de ne jamais prendre parti sur de parti moral. Est-ce que la Chine, c'est bien ou c'est mal? Voilà la question, j'espère, qu'on ne trouvera jamais répondue dans le vent de la Chine. C'est à vous de décider ce que ce pays vaut. À mon avis, il vaut exactement pas plus et pas moins que le nôtre. C'est l'humanité en marche. Ils essayent, on essaye aussi. Les méthodes sont différentes, mais c'est intéressant de se pencher dessus. Donc le vent de la Chine, c'est traiter toute l'actualité de la Chine, qu'elle soit religieuse, sportive, même littéraire parfois, surtout économique, politique et sociale, dans un sens simple, dans une langue simple, et de manière à la mettre à disposition de tous les Français de l'étranger, et de France aussi d'ailleurs.
Alors justement, à propos d'études, vous venez d'en publier une sur le 17e congrès du Parti communiste chinois, qui s'est tenu en octobre. Alors quel avenir se dessine pour la Chine et donc pour nous?
Ben écoutez, on se retrouve avec un bureau politique fortement renouvelé et un comité permanent qui est beaucoup moins renouvelé. Le comité permanent est extrait du bureau politique. Le bureau politique, 24 personnes. Le comité permanent, 9 personnes. Et sur ces 9, 5 sont de l'équipe précédente. Et ça, ça peut signifier que Jiang Zemin, l'ancien président, a gardé un certain pouvoir, ainsi que Zheng Jinghong, l'ancien vice-président de la République, qui lui est parti. Mais ils sont partis en laissant leurs hommes en place. Donc il y a une majorité de l'ancienne équipe. Mais cette interprétation est tout à fait sujet à caution aussi, car on constate au niveau du programme politique, de ce qu'ils sont en train de commencer à faire, que c'est beaucoup plus inspiré qu'avant par Hu Jintao, le président actuel, qui semble garder le pouvoir. D'autre part, dans ce nouveau comité permanent, vous avez deux personnages nouveaux qui sont essentiels. L'un s'appelle Xi Jinping, et il est probable que Xi Jinping, sauf accident de parcours, sera le prochain président de la République et premier secrétaire du parti et le nouvel homme fort à partir de 2012, et l'autre, Li Keqiang. Ces deux hommes ont à peu près 40 à 45 ans, 47, 48, quelque chose comme ça, non, 47 pour l'un et 52 pour l'autre, excusez-moi. L'un et l'autre ont ceci d'entièrement nouveau, qu'ils ont commencé il y a 20 ans en faisant des études de politique, de marxisme, des choses comme ça, comme on faisait à l'époque. Et entre-temps, ils ont l'un et l'autre, non pas arrêté de travailler, mais ils ont l'un et l'autre été aux études en cours du soir, en quelque sorte, et ils ont même fait chacun un doctorat d'économie et de droit. Xi Jinping est bon anglophone. Li Keqiang a traduit un livre de l'anglais, a traduit en université un livre complet de l'anglais vers le chinois. Donc ils sont tous les deux assez au courant de la culture et des manières de faire occidentales. Ce sont des gestionnaires de province, ils sont chauffés, entraînés depuis 15 ans à arriver au pouvoir suprême. et ils sont en conflit. Alors, Xi Jinping prétend être l'homme de personne. On pense qu'il a quand même été lancé par Jiang Zemin et surtout par Zheng Jinhong, tandis que Li Keqiang est très nettement le poulain de Hu Jintao, que Hu Jintao voulait voir arriver au pouvoir comme son successeur. Eh bien, ça n'a pas marché. Et en ne marchant pas, nous avons peut-être, sous réserve d'inventaire, pour la première fois dans l'histoire du régime, une passation de pouvoir légale où le futur prince n'est pas le fils spirituel de l'empereur sortant. Et c'est la première fois que ça se produirait.
Alors, on connaît la force et les atouts de la Chine, mais quels sont ses points faibles ?
C'est un très vaste programme. Les points faibles de la Chine peuvent se résumer en une phrase. C'est un pays qui ne communique pas. Sa structure décisionnelle fait que on décide au sommet après avoir recueilli des informations venues du bas. Les informations venues du bas peuvent être fausses puisque ce sont les mêmes qui ont administrer les niveaux intermédiaires qui vont tirer l'information sur leur bilan. Ils vont donc donner toujours les meilleurs résultats, du style « tout va très bien, madame la marquise », et ils vont surtout cacher tout ce qu'ils ont fait de mal. Donc après cela, vous pouvez prendre n'importe quel dossier et on voit beaucoup de problèmes systémiques lourds. Prenons le problème écologique, par exemple. Le gouvernement sait extrêmement bien ce qu'il faut à la Chine. Il faut une économie durable, il faut supprimer une méthode perverse de production qui ne tient pas compte des coûts monétaires et surtout des coûts écologiques de tout ce qu'on utilise. Autrement dit, la Chine utilise trois fois plus d'énergie qui vient du charbon pour faire une tonne d'acier que l'Inde. Et a fortiori que l'Europe, l'Inde, techniquement, quoique pays en retard sous pas mal de rapports, mais sous l'angle de la sidérurgie, ils sont à notre niveau en termes de besoins énergétiques pour produire de l'industrie lourde. La Chine, elle dit, moi je m'en fous, c'est pas grave, c'est l'État qui paye, ou en tout cas, on produit comme on veut et chacun est maître chez soi. Et si le gouvernement ne veut pas, aujourd'hui même, nous sommes en plein sommet de Bali, maintenant à l'heure où nous parlons, et le grand enjeu du sommet de Bali, c'est d'astreindre la Chine à une réduction obligatoire de ses émissions de gaz à effet de serre, eh bien, la Chine dit non, au nom du droit des peuples à se développer et au nom du fait que c'est les riches qui ont tricher en polluant pendant des siècles et maintenant qu'ils sont bien nourris, logés, bordés et ils demandent aux pauvres du tiers-monde d'en faire autant, c'est tout à fait anormal. Laissez-nous faire et on se débrouillera ensuite. Ils oublient deux choses, c'est que le monde entier est en train de se réchauffer à vitesse grand V et que le temps que cette démocratie, entre guillemets, ait eu lieu, tout le monde sera il n'y aura plus d'iceberg et tout le monde sera sous l'eau, ça leur fera les pieds à ce moment-là. Mais en plus, ils oublient qu'en termes d'aciérie, la Chine produit 51% de toutes les émissions de gaz à effet de serre sidérurgique du monde. Alors, on dirait qu'il faut arrêter les bêtises pour être poli. Mais la Chine dit ah, non, j'ai des droits, elle se met d'accord avec l'Inde et tout. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est pas parce que ce sont des gens pervers, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas imposer ça avant 2 ou 3 ans, à leur province. Les provinces font ce qu'elles veulent. C'est gravissime. Il est très difficile à l'État central on peut très bien coincer une province, mais elles sont toutes ensemble. Et c'est les provinces qui peuvent déposer le gouvernement central, à tout moment, par le biais du bureau politique, par exemple. Il suffit de mettre Hu Jintao en minorité. On ne fait pas ça, c'est rarissime de mettre un premier secrétaire en minorité et de le chasser pour trahison. Ça s'est fait en 89 contre Zhao Ziyang. le Parti communiste sait qu'il ne peut pas se tirer dans le pied en chassant ses propres leaders, mais par contre, les leaders ne font pas ce qu'ils veulent.
Donc voilà un des points faibles, et il y en a beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce que les Français attendent en matière d'information à propos de la Chine?
Ce qu'on me demandait il y a quelques années, parfois, c'était d'écrire des nouvelles qui ressemblent le plus possible aux nouvelles françaises, c'est-à-dire montrer le citoyen chinois qui fasse son jardin le samedi ou montrer le citoyen chinois qui décore son appartement. Ou, on nous demande aussi de bien présenter les défauts de la Chine, c'est-à-dire les excès sur le domaine des droits de l'homme. On nous demande de. Oui, un autre excès, c'est sur l'aspect du piratage industriel. Tout cela est tout à fait exact et je le fais. Ce qui me dérange, c'est que on peut arriver à une image qui est grimaçante d'une Chine recomposée, comme si on recomposait un jambon à partir de son gras, quoi, en enlevant toute la viande. Et si on ne montre que les excès droits de l'homme ou les excès piratage, et on passe à la pollution ensuite et on finit par le sida, on n'a pas donné beaucoup de chance à ce pays. Et souvent, sans s'en rendre compte, on nous demande de faire exactement ça. D'une certaine manière, ça permet de rassurer les Français en disant, nous, on vaut mieux qu'eux. Et d'une entourloupe, d'une pichenette, on a évité une analyse et on s'est rassuré soi-même, mais on n'a pas fait tourner le schmilblick.
Non, mais c'est la peur qui fait réagir comme ça. Alors, si on devait résumer la Chine aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la rage d'entreprendre?
Tout à fait, tout à fait. Une rage d'entreprendre, un bonheur d'entreprendre, l'espoir d'être plus demain en partant de relativement peu, de très peu. C'est aussi un pays. Imaginez un jardin qui aurait été un jardin à la française, à la Le Nôtre ou quoi, enfin, magnifique, et qui aurait été abandonné pendant un demi-siècle, un siècle, et vous avez des lianes partout, des orties, des ronces. Et alors, Mao Tse-tung est arrivé là-dedans. Et à tout nettoyer, même pas au Karcher, au lance-flammes, quoi, au napalm. Il a tout brûlé, tout cassé. Et ensuite, il a planté des plantes très très simples et ça faisait pas un beau jardin, quoi. Des plantes utilitaires, très sous contrôle. Ça ne voulait pas être esthétique. C'était plutôt un genre potager, quoi, qu'il a fait là-dedans. Et puis d'un seul coup, dans cette terre qui a tellement souffert, elle est revivifiée, quoi. Autrement dit, ces gens n'ont peur de rien. C'est au-delà du bien et du mal. Ils n'ont rien à perdre. Et ils se rendent compte de plus en plus qu'ils peuvent avoir confiance en eux et que ça marche, ça, quoi qu'on fasse, en fait, l'humanité peut pas couler à condition qu'on entretienne son bateau tous les jours. Et si on a brûlé le bateau, mais qu'on en a fait un plus grand ensuite, on est beaucoup mieux parti que les autres qui avaient un petit bateau magnifique, le petit bateau français, le petit bateau anglais, mais le bateau français, il est achevé dans ses moindres détails. Ou l'anglais, ou l'allemand, on peut donc dire, sous un angle strictement sémantique, qu'il est fini. Et le bateau chinois est infini, au sens où on n'en voit pas la fin. Elle viendra. Comme à tout le monde, mais dans 50 ans. Et en attendant, c'est un corps extrêmement jeune, un peu pâteau, pas encore bien entraîné, mais qui est en train de s'échauffer et de faire ses échauffements et de se mettre à courir. Et à ce moment-là, il nous laisse sur place, quoi, un petit peu.
Eric Meyer, merci.